Passons maintenant au deuxième module de notre application, le module EJB. Qu'est-ce que signifie EJB? C'est encore un acronyme Java EE qui signifie Enterprise Java Beans. Les EJB aujourd'hui, même si ça n'était pas le cas dans les versions précédentes, s'intéressent à la couche de service. Dans les anciennes versions de Java EE, les EJB en fait englobaient deux choses. D'une part, la partie mapping objet relationnel, qui d'ailleurs, disons-le bien, n'a jamais réellement fonctionné dans le contexte des EJB, et la partie couche de service. Dans les applications Java EE, à partir de la version 6, JPA devient une spécification détachée des EJB, et les EJB ne s'intéressent plus qu'à la spécification de la couche de service de notre application. Dans le contexte Java EE, ces EJB forment donc la couche de service. C'est au travers d'eux que vont être gérées les transactions de la base de données. À noter que dans la dernière version de Java EE, la version 7, on peut détacher la gestion des transactions de la notion d'EJB, mais pour l'instant, nous allons rester sur le pattern EJB opération transactionnelle. Les EJB en fait présentent deux caractéristiques particulières. Premièrement, ils gèrent automatiquement les transactions, l'Entity Manager Factory et les Entity Manager pour nous. Deuxièmement, ils sont soumis à ce que l'on appelle l'injection de dépendance, qui est la partie gérée par la spécification CDI, Context and Dependency Injection de Java EE. Nous avions présenté cette spécification sur le tableau des différents modules de Java EE et cette spécification est séparée de la spécification EJB. Qu'est-ce qu'un EJB? Un EJB techniquement est une classe normale, une classe Java tout à fait classique, qui est annotée avec une annotation particulière, @stateless, posée sur la déclaration de la classe. En toute rigueur, il existe plusieurs types de JB, les types stateless qui sont sans aucun doute les plus utilisés, les types stateful qui eux peuvent posséder un état et gèrent la notion de session utilisateur, et puis d'autres types comme les types singleton ou timer que nous ne verrons pas. Notre JB musicien service possède deux méthodes. Une méthode findById qui prend une clé primaire en paramètre et retourne un musicien par invocation de la méthode em.find. Et puis une méthode findByName qui prend un nom en paramètre qui va se charger de la création de l'objet query que nous avons vu tout à l'heure en lui passant en paramètre le nom de la requête que nous voulons invoquer et qui va retourner une liste de musiciens. D'où vient cet objet EM, Entity Manager, que nous utilisons dans nos méthodes? Il est déclaré en tant que champ de notre classe musicien service et annoté avec @persistance_context auquel on passe en paramètre unitName égale dataService. On reconnaît en fait ici le nom de notre unité de persistance. Cette annotation signifie que cet Entity Manager est un Entity Manager de l'unité de persistance DataService. Et le container Java EE qui gère cet EJB pour nous, qui va l'instancier pour nous avant que nous puissions invoquer ces méthodes, va se charger lui-même de la création de l'unique Entity Manager Factory dont il a besoin et de la création d'un Entity Manager dont nous avons besoin pour les opérations de persistance et les opérations de requête. C'est un peu la magie de l'injection de dépendance. Quand on est dans la méthode findById ou findByName, l'objet Entity Manager a été créé pour nous par le container correctement. Et de même, lorsque l'on va quitter cette méthode, la méthode close de cet Entity Manager va également être appelée pour nous, de sorte que chaque invocation de méthode aura son propre Entity Manager et donc également son propre cache objet. Notons également que par défaut, l'invocation d'une méthode d'un EJB, quelle qu'elle soit, se fait dans un contexte transactionnel. Cela signifie que lorsque nous sommes dans une méthode findByID ou dans une méthode create ou dans une méthode delete, la transaction a été créée pour nous, la méthode begin de cette transaction a été invoquée également pour nous, et la méthode commit sera automatiquement invoquée lorsqu'on quittera cette méthode. Le fait que les transactions soient gérées pour nous nous dispense complètement de la gestion manuelle de ces transactions. On n'a plus à en entendre parler. Et si nous sommes dans ce contexte-là, tenter de récupérer une référence sur cette transaction est même interdit. Donc on voit que cet objet EJB va nous permettre de nous débarrasser de toute une partie de notre code technique. D'une part, la création de l'Entity Manager Factory et la création des Entity Manager, et également la création et la gestion de nos transactions avec les méthodes begin et les méthodes commit. Si jamais à l'intérieur de l'invocation d'une méthode d'un EJB, une exception est générée, donc si la sortie de cette méthode se fait de façon exceptionnelle, à ce moment-là, la méthode rollback de l'Entity Manager sera automatiquement invoquée pour nous. Du coup, notre configuration au niveau de notre persistance XML doit changer, notamment la déclaration du mode transactionnel dans lequel nous sommes ne doit plus être celui dans lequel on disait à l'unité de persistance que les transactions étaient gérées à la main. Deuxième point, dans un serveur Java EE, on ne gère pas la connexion à la base de données de la même façon qu'en test ou en développement. La façon canonique de gérer les bases de données au niveau d'un serveur Java EE consiste à gérer les connexions, non pas une par une comme on peut se permettre de le faire en environnement de développement ou de test, mais par pool, par réserve. Donc, au niveau de notre serveur Java EE, on va déclarer un pool de connexions, une réserve de connexions qui vont donc être créées au lancement de notre application et dont le cycle de vie sera géré par le serveur d'application lui-même. Et au-dessus de ce pool de connexions, nous allons créer une source de données Java qui sera utilisée par notre module JPA. Tous ces éléments sont précisés bien sûr au niveau de notre persistance.xml à l'intérieur de la déclaration de notre persistance unit. Là où nous avions indiqué ressources locales pour l'attribut transaction type, nous allons déclarer cette fois-ci JTA, Java Transaction API, qui est le nom de la spécification Java EE qui s'intéresse précisément à la gestion des transactions. Et nous allons rajouter un élément, JTA Data Source, qui indique le nom d'une source de données déclarée au niveau de notre serveur d'application. Chaque serveur d'application a son propre mécanisme de définition de sources de données et de pool de connexion vers la base. Nous verrons celui de Glassfish, celui de Tomcat, de Wildfly, de JBoss, de WebLogic, de Liberty Profile, de WebSphere sont évidemment différents. Cela signifie également qu'un certain nombre de propriétés définies à l'intérieur de notre élément Properties deviennent obsolètes. Toutes les propriétés qui concernaient la connexion à notre base de données, URL, login, mot de passe, ainsi que la classe du driver propre à chaque driver JDBC, deviennent obsolètes et peuvent être retirées. Passons à présent à la création d'un projet Java EE. Dans le contexte de notre test, JPA est utilisé en mode Java SE. Cela se traduit par la création de l'Entity Manager Factory à la main, la création de l'Entity Manager également manuellement et la gestion explicite des transactions. Ce contexte est un contexte Java SE qui fonctionne sans problème, mais ça n'est pas le contexte que l'on veut utiliser au final. Pour cela, nous allons créer un projet supplémentaire qui n'est cette fois-ci plus un projet Java classique, mais un projet web dynamique sous l'onglet Web ici dans le wizard de création de projet d'Eclipse. Donnons-lui MVA Java EE comme nom. On constate qu'Eclipse nous demande un certain nombre de renseignements supplémentaires. Le runtime de ce projet, en l'occurrence Glassfish 4, et la version du web module que nous sommes en train de créer, qui est la version 3.1, qui correspond à Java EE 7. Les autres éléments de configuration peuvent être laissés avec leur valeur par défaut. Eclipse nous crée donc ce nouveau projet et on voit qu'il y a dedans un certain nombre d'éléments supplémentaires, notamment l'élément web content dans lequel on va pouvoir ranger nos éléments statiques et dynamiques de notre application web. La première chose que nous allons faire consiste à mettre en dépendance de notre projet Java EE le projet modèle que l'on a créé, puisque les classes de ce modèle vont être utilisées par les éléments de notre projet Java EE. Cela se fait comme d'habitude dans les propriétés de ce projet, élément Build Path ici, onglet Projet, et on ajoute simplement le projet modèle en dépendance de notre projet Java EE. Il nous reste encore quelques éléments de configuration à établir. On passe pour cela dans la perspective Java EE d'Eclipse. Dans cette perspective se trouve une vue nommée Serveur, dans laquelle nous allons déclarer notre serveur Glassfish 4, suivant, et déployer notre projet MVA Java EE dans ce Glassfish 4. Donc ce Glassfish doit apparaître dans cette vue serveur avec ce projet MVA Java EE à l'intérieur. Démarrons Glassfish 4. Cela va nous permettre également d'accéder à l'application web d'administration de Glassfish et de configurer un certain nombre d'éléments au niveau de Glassfish. L'accès à l'IHM d'administration de Glassfish se fait au travers d'un navigateur. Une fois que Glassfish est lancé, il suffit de connecter son navigateur sur localhost 4848 pour accéder à cette interface d'administration. Le point qui nous intéresse dans cette interface d'administration est la création d'une source de données gérée par Glassfish et que notre module JPA va pouvoir utiliser pour dialoguer avec la base MySQL. Les choses se passent donc ici. La création d'une source de données se fait en deux temps. Premièrement, la création d'un pool de connexion et deuxièmement, la création d'une source de données sur ce pool de connexion. Nous n'avons pas besoin du pool de données Derby. Retirons-le. Créons ce pool de données musicien pool. C'est un pool de données qui va permettre d'exposer une source de données à notre module JPA et qui s'adresse à une base de données MySQL. Deuxième étape de la configuration, on conserve la valeur par défaut pour la classe de la source de données MySQL. Et en fait, la seule chose que l'on a besoin de faire, c'est de préciser les informations indispensables, le nom de notre base de données,
musician test, le mot de passe muse, le nom du serveur localhost et le nom d'utilisateur musician user. On peut préciser localhost dans l'URL de cette connexion. Et enfin, tester notre pool de connexion en cliquant sur le bouton ping qui se trouve ici et qui nous indique que ce pool est donc bien capable de dialoguer avec notre base MySQL. Une fois ce pool créé, on peut créer une source de données au-dessus de ce pool. On va lui donner comme nom jdbc/musician.ds comme data source. Ce pool de données s'appuie sur Musician Pool. Clique sur OK. Et maintenant, notre data source va être disponible sous ce nom JNDI que l'on va récupérer et utiliser dans un nouveau fichier persistance.xml. Notons tout de même que GlassFish, dans sa distribution par défaut, ne possède pas le driver JDBC pour s'adresser à MySQL. Nous l'avons donc ajouté à la main et copié dans le répertoire GlassFishLib de GlassFish. On aurait pu également le copier directement au niveau du domaine que l'on utilise, c'est-à-dire domaine 1. Là où nous l'avons copié, ce driver MySQL va être disponible auprès de tous les domaines que cette instance de GlassFish gérera à l'avenir. Nous avons donc configuré notre data source JDBC musicien.ds au niveau de GlassFish. Nous avons vérifié qu'elle était bien capable de se connecter à notre base MySQL. À présent, nous allons retourner dans notre projet Java EE pour configurer JPA de sorte qu'il puisse s'appuyer sur cette source de données pour accéder à la base. Donc, pour configurer notre application Java EE, nous allons reprendre le fichier persistance.xml que nous avions créé dans notre projet de test, le copier dans notre projet Java EE et le modifier de façon à prendre en compte la différence d'environnement entre Java SE et Java EE. La première différence est que les transactions sont gérées par le container et non plus à la main, donc il faut changer le transaction type de l'élément persistance unit. Ensuite, il faut indiquer que l'on se connecte au travers d'une source de données plutôt qu'une connexion JDBC directe. On précise donc ce point en ajoutant un élément JTA data source et en donnant le nom de la source de données que nous venons de créer, c'est-à-dire JDBC musicien.ds. Les éléments qui permettent de se connecter en mode Java SE ne sont plus nécessaires dans ce cas. On va donc les retirer. Lorsque l'on travaille en mode production, évidemment, on ne va plus demander à JPA de créer les tables à la volée à chaque redémarrage du serveur GlassFish. Cela pourrait éventuellement avoir un effet désastreux si des données critiques se trouvaient dans ces tables et venaient à être effacées. Donc, on modifie également ce paramètre pour le mettre à none. Les paramètres de journalisation des requêtes SQL peuvent rester telles qu'elles sont. En revanche, on n'a plus besoin de créer les deux fichiers de script de création et d'effacement des tables de notre base. Donc, on peut également retirer ces lignes-là de notre fichier. Nous avons donc transformé notre fichier persistance XML en un persistance XML Java EE. On voit que les modifications à y apporter sont en fait assez simples. Nous sommes maintenant prêts à créer notre premier EJB. Cette classe Java va être créée dans le projet Java EE. Choisissons comme package fr.soat.javaee.ejb. Appelons notre classe musicianService. Un EJB est une simple classe Java annotée avec la notation stateless. Nous allons créer dedans les quatre méthodes correspondant aux quatre opérations crudes de base de manipulation de l'entité musicien. Donc la première méthode, public, long, create, musicien, qui prend un objet musicien en paramètre. Que doit faire cette première méthode? Elle doit tout simplement passer cet objet musicien à la méthode persist de notre entity manager et retourner la clé primaire de notre musicien. Nous n'avons pas encore créé cet entity manager, nous allons le créer en tant que champ de notre classe musicien service, entity manager EM, et nous allons demander au container Java EE d'injecter l'entity manager au niveau de notre JB. Cela se fait en annotant notre champ à l'aide de la notation persistance contexte. Persistance contexte permet d'injecter un entity manager dans une classe de type EJB, alors que persistance unit permet d'injecter l'entity manager factory à l'intérieur de cette classe. Ici, c'est bien de l'entity manager dont nous avons besoin, donc on utilise la notation persistance contexte à laquelle on passe un attribut unit name qui prend la valeur du nom de l'unité de persistance à laquelle on veut s'adresser. En l'occurrence, notre unité de persistance s'appelle data service. De cette façon, à chaque appel de la méthode createMusicien, le container Java EE va créer automatiquement un entity manager qui va s'appuyer sur l'entity manager factory de cette unité de persistance et qui lui-même référence la source de données que nous avons déclarée au niveau du serveur d'application GlassFish. Notre première méthode nous permet donc de créer un musicien à partir d'une instance de musicien qui n'est pas persistante. On peut ainsi multiplier les méthodes public void update musicien à laquelle on va passer également une instance de musicien. La méthode concernée sur l'entity manager est la méthode merge. Donc merge musicien va permettre de mettre à jour ce musicien en base à partir des valeurs contenues dans cet objet. Passons à la méthode delete, public void delete musicien. Cette méthode prend un musicien en paramètre et va passer ce musicien à la méthode remove de cet entity manager. Cela dit, il y a toutes les chances pour que l'objet musicien passé en paramètre ne soit pas attaché à l'entity manager qui se trouve ici. Et si nous passons un objet musicien non attaché à cet entity manager, une erreur sera générée. Donc la première étape en fait de ce traitement est de réattacher cet objet musicien à cet entity manager de cette façon-là, musician égale em.merge de musicien. Et la dernière méthode dont on a besoin est la méthode de retrieve que l'on peut appeler findByID. On lui passe une clé primaire en paramètre et elle retourne le musicien qui correspond à cette clé primaire. Donc voici un premier EJB qui implémente les quatre méthodes classiques du pattern crude sur une entité musicien. Supposons que l'on veuille aller plus loin et que l'on veuille créer une méthode public list de musiciens get all musiciens. Cette fois-ci, on sort des opérations crudes classiques et pour construire le résultat de cette méthode, on a besoin de faire une requête simple sur l'entité musicien. Il existe plusieurs façons d'exprimer des requêtes en JPA. L'une des façons les plus simples est probablement de créer une requête nommée que l'on va créer sur la classe musicien directement. Les requêtes nommées sont exprimées dans une annotation particulière que l'on appelle named queries. Cette annotation named queries prend en paramètre un tableau d'annotation named query. Cette requête nommée prend deux attributs en paramètre. Le premier attribut est le nom de cette requête. Nommons pour l'instant cette requête musician.getAll. Et en deuxième paramètre, évidemment, la requête elle-même, select m from musicien m. Cette requête est exprimée dans le langage de requête de JPA qui s'appelle JPQL. Le JPQL ressemble au SQL. Cela dit, ce n'est pas un langage qui opère sur le modèle relationnel des tables SQL, mais un langage qui opère sur un modèle objet, donc la syntaxe est légèrement différente. On peut constater ici que le fait d'avoir renommé notre entité musicien ici nous permet d'utiliser le nom de cette entité dans notre requête JPQL. Si nous n'avions pas donné ce nom musicien à cette entité au niveau de la notation entité qui se trouve ici, nous aurions dû donner le nom complet de la classe musicien qui est le nom de l'entité par défaut musicien. On peut encore faire un peu mieux au niveau de notre requête nommée. Ici, on a un nom qui est écrit en dur dans une chaîne de caractères. Il sera certainement meilleur de mettre ce nom dans une constante. Ce que l'on va faire maintenant, on va appeler cette constante musicien get all, recopier cette valeur dans notre constante et nommer notre requête à l'aide de la constante. Comme tout à l'heure, on doit importer statiquement cette constante si l'on veut que le compilateur la retrouve, puisque cette constante est utilisée à l'extérieur du contexte de la classe musicien. Maintenant que notre requête nommée a été créée dans notre classe musicien, on peut l'invoquer dans notre JB au travers de l'objet query. Query égale em.create named query, auquel on va passer le nom de cette requête nommée musician get all. Ce nom, nous avons besoin de l'importer statiquement, comme on l'a déjà fait pour d'autres constantes dans cette application. Jouons un peu avec le copier-coller. Musicien get all. L'exécution de cette requête nommée se fait sur invocation de la méthode getResultList. On peut stocker le résultat dans une liste de musiciens et retourner ces musiciens. À ce stade, le compilateur Java nous met un warning qui nous indique qu'il n'est pas à même de vérifier que la liste retournée par getResultList est bien une liste de musiciens exclusivement. Comme du point de vue applicatif, nous sommes certains qu'il n'y a que des musiciens dans cette liste, on peut ajouter une annotation sur cette méthode getAllMusicien qui va indiquer au compilateur que nous n'avons pas besoin de ce warning. Donc voici notre JB prêt à être utilisé. Il implémente d'une part le pattern crude avec une méthode de création, de mise à jour, d'effacement et un find by ID. Et on pourrait multiplier les méthodes qui font appel à des requêtes nommées sur la classe musicien ou sur d'autres classes d'ailleurs, ce que nous n'allons pas faire dans cette application pour des raisons de simplicité. Nous pouvons donc continuer à construire notre application Java EE.